France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Il y a des ouvrages emblématiques dans certaines collections. Il va être question d'un ouvrage de cet acabit dans l'émission que vous allez entendre dans quelques instants. La collection, c'est Terre humaine, célébrissime entreprise de l'écrivain et explorateur Jean Mallory. Et l'ouvrage, c'est L'été grec de l'écrivain Jacques Lacarrière. Il a fallu à l'auteur plus de 20 ans de voyage à travers la Grèce avant de se lancer dans l'écriture de ce livre dont le registre se situe quelque part entre les mémoires et le traité de sciences humaines. Le résultat en est un témoignage très libre et particulièrement érudit sur la Grèce d'aujourd'hui et les sources de la culture de cette Grèce actuelle, des lointaines traces de l'Antiquité au christianisme orthodoxe. Voici donc L'été grec dans Un livre des voix, une émission de Pierre Cipriot diffusée pour la première fois le 13 avril 1976.
Il est difficile de présenter en trois minutes ce livre L'été grec de Jacques Lacarrière qui paraît chez Plon dans la collection Terre humaine. Disons pour simplifier que c'est un itinéraire original. Jacques Lacarrière est le contraire en effet du touriste des voyages collectifs et forcés. Il a publié l'an dernier un livre qui suivait sa marche à pied à travers la France, titre de ce livre, Chemin faisant. Eh bien, c'est chemin faisant que Jacques Lacarrière nous fait découvrir la Grèce. Ajoutons que l'été grec est aussi un itinéraire dans le temps. Jacques Lacarrière en effet découvert la Grèce pour la première fois en 1947. Il venait jouer avec le groupe du Théâtre antique de la Sorbonne, et à ce propos, on doit à Jacques Lacarrière une étude sur les cultes spectaculaires de l'Antiquité classique, dans le tome « Histoire des spectacles » de l'Encyclopédie de la Pléiade. Pour Jacques Lacarrière, tout un aspect du rituel méditerranéen concernant les fêtes des récoltes, les naissances, les enterrements, est un théâtre déjà, un théâtre à l'état sauvage. Il a suffi que ces mythes deviennent histoire et que le récitant soit un acteur pour que le théâtre surgisse dans l'Antiquité grecque. En ce sens, la tragédie antique révèle la présence vivante et charnelle de la Grèce. Chargé d'interpréter des rôles du légendaire grec, Jacques Lacarrière fut que Xerxès dans les Perses, il a pu écrire, avec l'été grec, le livre d'une amitié, d'une liaison, au sens amoureux du terme, avec un pays, un peuple, une histoire, à laquelle il s'était identifié et qu'il avait incarné. Signalons aussi les chapitres de ce livre consacrés au mont Athos, long séjour inconfortable chez les moines qui ont initié cette fois Jacques Lacarrière à la Grèce byzantine, la Grèce des ascètes, qui vivent isolés, font leur pain, gardent tout leur temps pour la contemplation et la prière. Jacques Lacarrière s'étonne que ces visages qu'il a rencontrés aient l'air de surgir des profondeurs du temps, de jaillir des fresques et des icônes. C'est à Athos, écrit Jacques Lacarrière, que m'a paru la loi secrète des visages. La ressemblance ici est parfaite entre les traits imaginaires des saints et les visages réels que les détails extérieurs, barbe, cheveux, indifférence à la toilette, n'en sont pas seuls responsables. Comment s'effectuent dans les corps, les os, les chairs, ce lent pétrissage, ces subtils agencements qui modèlent peu à peu les visages des vivants sur ceux des morts? Grèce de la tragédie, Grèce monastique, Jacques Lacarrière évoque aussi la Grèce des îles, où tout est à la mesure humaine. Et Jacques Lacarrière nous dit aussi comment on peut aller en Grèce par les terres, en suivant l'itinéraire des Indo-Européens, ou s'y rendre par la mer en suivant les côtes, en cabotant comme le faisaient les anciens qui prenaient la mer, en restant le plus près possible de la terre ferme. Une phrase de Jacques Lacarrière pour terminer, phrase où il nous dit comment il a bourlingué en Grèce en traînant un sac de couchage bleu, décoloré et empesé par les embruns. Voici cette citation. « C'est ainsi que j'ai voyagé, des années, gros chenilles bleues aux lentes reptations, regardant les étoiles danser et les mâts osciller dans la nuit. » Vous voyez, l'été grec n'est pas un livre touristique, mais vous y découvrirez ce qui fait l'attrait du voyage, le dépaysement et la compréhension profonde d'un monde différent et qui nous surprend. Cette émission sur l'été grec de Jacques Lacarrière est faite par Claude Roland-Manuel.
Ce qui demeure en moi si durablement de la Grèce est d'abord ce vertige de la mémoire grecque, ce sentiment d'avoir exploré, tel Alexandre le Grand au fond des mers dans son tonneau de verre, un continent linguistique en partie englouti, et d'en avoir perçu, reçu, la survie obstinée sur les lèvres du peuple grec. Cela seul perdurera quand tout le reste aura changé, et que la Grèce, pour le bonheur des uns, l'amertume des autres, sera enfin devenue ce qu'on nomme un pays moderne. Ici, sur cette terre où je me sens toujours vivre, malgré le recul des années, sont nés les mots, les empreintes et les catégories mentales qui sont encore les nôtres, et que je porte en moi, que nous portons toujours en nous, en traçant ce seul mot d'épilogue.
Jacques Lacarrière, tel est l'épilogue, précisément, de votre livre. En fait, il me semble que vous ne justifiez pas le fait que vous mêlez l'antique et le moderne.
Bon, le justifier, non, parce qu'au fond, je n'ai pas le sentiment d'être devant un procès à gagner. Simplement, l'expérience que j'ai eue, je ne suis pas le seul, je pense, l'expérience que j'ai eue en Grèce pendant des années m'a peu à peu montré combien ces Grèces, il faudrait dire pas seulement l'ancienne et la moderne, mais aussi la Grèce byzantine, combien ces trois Grèces étaient essentiellement mêlées dans les traditions, dans la mémoire populaire, et même parfois dans la mémoire savante, parce que aujourd'hui encore, un très grand poète comme Elitis, un homme qui a connu l'expérience du surréalisme, qui était l'ami de Paul Éluard ou de Tristan Tzara, lorsqu'il écrit son grand poème « Actionesti », s'inspire entièrement des images, je dirais, de la beauté iconique de la liturgie byzantine. Il y a donc toute une tradition, finalement, qui est plus solide qu'on ne le croit.
La population, la langue, l'histoire, en bref, ont tellement évolué qu'on se pose quand même des questions.
Ben oui, c'est-à-dire que ça a évolué, mais c'est la même langue qui a évolué. Une langue évolue, et donc elle ne ressemble plus aujourd'hui à ce qu'elle était il y a 3000 ans, mais c'est la même. C'est ça l'important, et en français, nous ne pouvons pas en dire autant. Nous n'avons pas une langue qui a 3000 ans d'évolution à l'intérieur d'un monde où elle s'est préservée. Et les assauts que la Grèce a subis, les occupations étrangères, au contraire, ont incité ce peuple à préserver sa langue, puisqu'ils étaient également niés dans leur langue. Les Turcs ne pouvaient pas empêcher les Grecs de parler grec, mais ils les empêchaient de transmettre l'enseignement religieux, qui se faisait clandestinement. Et ce sont les peuples qui ont appris à lire à tous les enfants grecs, pendant ce qu'on a appelé les nuits de l'occupation ottomane, de la turcocratie. Et au fond, quand un peuple est comme ça défié par l'histoire et par la violence, eh bien il a plutôt tendance à défendre pas seulement son nationalisme, mais sa religion et sa langue. Et c'est grâce à ça que la Grèce existe toujours. Tout le peuple grec s'est rassemblé autour d'une religion qui était la religion orthodoxe. Le Christ est le Christ soldat. Le Christ orthodoxe, ce n'est pas un pasteur qui marche des brins d'herbe. C'est un soldat. Il a des lances, il a des cuirasses, il a un regard terrifiant ou des coupoles. C'est un Christ qui se bat, c'est le Christ des combats. Et puis, une langue, qui est leur langue. Et c'est grâce à ça que la Grèce existe toujours. Je pense qu'elle aurait pu disparaître comme l'Arménie ou comme d'autres pays, étant donné les difficultés, on peut dire, les tragédies qu'elle a connues dans son histoire.
Avant d'aller en Grèce, on s'imagine qu'on éprouvera une certaine nostalgie avec ce que le mot comporte de mélancolie. Et en fait, cette nostalgie du passé existe parce que le passé est extraordinairement présent, d'où à la fois une joie et une angoisse qui se mêlent dans cette nostalgie. Et c'est, je trouve, cette vérité que vous faites extraordinairement ressortir.
Oui, en réalité, moi j'ai cherché à oublier les pierres en Grèce. Il faut les oublier un jour, les pierres. Et elles hantent pas seulement, disons, ceux qui veulent cesser d'être des touristes, mais elles hantent un peu les Grecs d'aujourd'hui qui sont accablés par ce poids de l'Antiquité à travers des expériences très concrètes.
Mais comment les oublier? Elles semblent faire partie de la nature.
Elles font partie de la nature, mais je veux dire qu'on peut, les avoir, on peut les regarder, on peut les visiter, mais on ne peut pas toujours se référer à cette époque comme une sorte de modèle qu'il faudrait sans cesse reproduire. Pendant longtemps, l'enseignement classique en Grèce a transformé vraiment l'enseignement de la Grèce moderne comme une sorte de survivance, alors qu'il y a des forces vives qui ont dû d'abord, comme le dit Vassilikos, qui ont dû soulever le couvercle du sarcophage pour paraître à l'air libre. Et c'est un combat culturel important, ça, en Grèce. Se servir de la même langue, mais savoir aussi qu'on peut avoir d'autres thèmes que ceux des anciens, de ces vieillards nobles et talentueux, dont on voit les œuvres dans toute la Grèce, mais un peu comme un reproche. J'allais dire vivant, non, un reproche mort, un reproche de marbre, mais qui agace beaucoup les générations modernes parce que ils se sont rendus compte que vouloir faire revivre la Grèce antique, comme c'était le cas après la guerre d'indépendance, comme les révolutionnaires français rêvaient de Rome, eh bien c'est un rêve historique mais irréalisable, et qu'après tout il faut que la Grèce et les Grecs existent maintenant avec le monde d'aujourd'hui. Ce sont des nouvelles noces qui restent à célébrer.
Le monde d'aujourd'hui, avec toujours ce vent comme concret et vide à la fois, qui passe devant vous, derrière vous, qui vous entoure comme dans Homère.
Oui, cela. Alors, s'il y a une chose qui me paraît encore plus permanente que les ruines, enfin, ou que les monuments, c'est le paysage. À part quelques régions où maintenant l'industrie a transformé les choses, je crois que la Grèce est un des pays, comme d'ailleurs la Palestine, où les paysages anciens sont restés à peu près les mêmes. Je me disais souvent dans le Péloponnèse, en regardant une vallée, en regardant une montagne, qu'à part le clocher des églises, qui est une construction chrétienne, certainement qu'autant au 5e siècle avant Jésus-Christ, quand Pausanias se promenait dans ces lieux, il devait voir la même chose. La végétation n'a pas changé, et l'homme est peu intervenu dans ce paysage. Parce qu'en grande partie, d'ailleurs, les Grecs étaient toujours ailleurs qu'en Grèce. Ce sont des éternels émigrants qui ont commencé très tôt et qui continuent aujourd'hui encore. Ça aussi, c'est une tradition permanente. Depuis le temps où on fondait des colonies grecques sur la Méditerranée, il y a près de 30 siècles, eh bien, on continue aujourd'hui, quand on est grec, à partir pour New York, ou pour Chicago, ou pour l'Australie, le Canada, ou la France. Je me dis qu'être français, par exemple, naître dans un village de France, n'implique pas du tout qu'il faudra le quitter un jour pour partir à l'étranger. On n'a pas dans nos chromosomes, si je puis dire, cette sorte d'emblée de destin vers l'ailleurs, qui est celui du grec, et ça depuis des générations. On sait, quand on a plusieurs enfants, qu'au moins deux d'entre eux ne grandiront jamais avec leurs parents. Il faudra qu'ils partent travailler très tôt, à l'étranger, et parfois revenir quand ils pourront, une fois tous les 10 ans. C'est un destin particulier à la Grèce aussi, qui est à la fois une tradition et qui en même temps est un déchirement, et qu'on connaît mal, nous, Français, qui sommes à la fois sédentaires et incrustés, enfin, dans nos villages et dans nos villes.
Vous avez parcouru toute la France à pied. Comment avez-vous parcouru la Grèce?
Ben, la Grèce, je l'ai souvent parcouru à pied aussi, c'est-à-dire quand il s'agissait de promenades de village à village. La Crète, par exemple, je l'ai traversée pratiquement à pied entièrement. Et j'avais souvent des mulets qu'on me donnait, qu'on me prêtait pour aller jusqu'à un autre endroit. Et là, je le laissais à quelqu'un qui avait besoin de revenir ensuite au village. Et c'est assez amusant de parcourir un pays en se faisant prêter des mulets comme ça. Et puis aussi, je l'ai parcouru avec les moyens locaux. Vous savez, en Grèce, il faut voyager avec les Grecs.
Vous avez tiré une leçon particulière de vos contacts avec les ermites en Grèce?
Moi, j'ai tiré une leçon de la rencontre avec le père Nikon, qui était russe, Starets Nikon, qui était un homme tout à fait remarquable et dont je parle pour la première fois dans ce livre, bien que je l'ai rencontré il y a plus de 20 ans maintenant. Oui, j'ai rencontré un homme que je pourrais dire accompli, un homme pas seulement heureux, un homme dans la béatitude, et un homme qui disposait de... je dirais d'une bonté et de pouvoir évident qui vous baignait dans une auréole de plénitude, de présence intense. ces silences n'étaient pas des vides, c'était au contraire comme si il continuait à parler et qu'on comprenne son langage sans les mots.
Mais il manquait d'informations. Il en était gourmand.
Il est certain qu'il y avait une certaine curiosité, oui, pour l'astronomie, pour des problèmes scientifiques, pour l'évolution scientifique du monde.
Est-ce que vous croyez que le modernisme est en train de gâcher en Grèce tout ce que vous y avez trouvé ?
Ben, c'est-à-dire qu'il gâche dans la mesure où, de toute évidence, il se développe de façon anarchique. Le modernisme n'est pas un mal, mais quand tout se fait sans ordre, sans contrôle, simplement au hasard des intérêts locaux, au hasard des intérêts individuels, on a une sorte de ville faite de cubes qui ne serait pas mis en ordre. Et je crois que la Grèce souffre beaucoup parce que c'est un pays petit. Il faut penser que les rivages grecs ne sont pas grands. Les îles sont minuscules. Il y a des îles où 20 personnes de plus déjà ont un équilibre modifié. Alors c'est fragile, la Grèce est un pays fragile sur ce plan-là. Les sites sont devenus des lieux pour attirer les touristes et on n'a pas réfléchi au fait que, en attirant les touristes, les lieux eux-mêmes se mettent à changer de vie et que cela, il faut le protéger autant que les hommes ou que les êtres vivants.
Mon premier voyage en Grèce eut lieu en 1947, le dernier à l'automne 1966. Ma dernière image, une île de la mer Égée, sans arbres, avec un unique village et un paysage dénudé où misère et beauté s'allient comme deux versants d'une même colline. Misère et beauté, alliance des contraires. Comme cette phrase d'Héraclite que les paysages des Cyclades ne cessent d'épeler en leur lumière, l'harmonie suprême est coïncidence des contraires. Tout se fait, tout se défait par la discorde. Si l'image de cette île perdue demeure en moi avec tant de force, c'est peut-être qu'elle fut la dernière. Pourtant, avec le recul des années, je me rends compte à quel point les souvenirs se mêlent en ma mémoire comme en un jeu énigmatique. Pourquoi certains d'entre eux, si anonymes d'apparence, restent-ils avec insistance comme s'ils voulaient souligner un message dont le sens m'échappe encore ? Celui-ci, par exemple. Né d'une rencontre au crépuscule sur un chemin du mont Athos. En regagnant le monastère où je logeais, après une longue marche vers les grottes des ermites, je tombai en arrêt devant un paysage déjà connu et pourtant fantastiquement nouveau, un versant où s'étageaient de petites bâtisses couvertes d'oliviers et d'orangers, avec la tache blanche d'une terrasse ombragée d'une treille, la rondeur d'une coupole dressée comme un sein vers le ciel. À travers le tamis des arbres, où l'on devinait invisible la présence des moines, des voix, des sons, des cris, parvenaient avec une netteté exceptionnelle en dépit de leur éloignement. Et je restais ainsi, à écouter le miaulement des chats, le bruit sec d'une branche qui casse, le murmure des conversations dont je parvenais presque à distinguer les mots, perdant toute conscience du temps, comme si ce paysage, ces cris et ces couleurs étaient devenus fragments d'éternité. Puis, brusquement, quelque chose se vida, en moi et autour de moi, comme une lumière se retirant des arbres du ciel, et ce ne fut alors qu'un soir comme les autres. Ne serait-il resté de Mycène que les masques d'or funéraires trouvés sur l'Acropole, ils suffiraient à eux seuls à nous en raconter l'histoire. La raconter à leur façon, par le biais de la mort. Ces feuilles d'or martelées à même le visage des défunts en ont épousé les reliefs et les creux signifiants bien mieux qu'un moulage de cire. Mais au-delà de ce dialogue, le travail de l'artiste et du temps les a comme imprégnés d'une substance nouvelle, d'un intense message qui n'en font plus de simples œuvres réalistes. Le globe exagéré de leurs paupières, surtout dans le masque dit d'Agamemnon, au point que l'enflure des yeux clos m'a longtemps fait penser au regard mort des batraciens. Les sourcils arqués comme une orbe, ou rejoignant brutalement l'arête affinée du nez. Le mouvement de la bouche, suivant la courbe des moustaches. Ces rides, ce frisson de métal dû sans doute à un long séjour sous la terre. Tout cela donne à ces masques l'allure de portraits retouchés, d'une hallucinante création à mi-chemin du réel et de l'imaginaire. Ce qui me frappe en ces visages, c'est moins les traces encore sensibles de la vie, telle expression des lèvres, des yeux, du visage épanoui ou fripé, qui n'est peut-être qu'effet d'artiste ou saccage du temps, que la parenté de ces visages aux traits si disparates. Cette affirmation du pouvoir souverain des rois par-delà la tombe et la mort. Il continue, manifestement, de régner, de chasser, d'ordonner quelque part entre le monde des ombres et celui des vivants. Et cette pérennité fantomatique, cette survie posthume, marquent encore la Grèce classique, l'œuvre d'Eschyle notamment, plus de 10 siècles après la fin du règne de Mycène. Si l'on veut véritablement tuer un roi mycénien, il faut le tuer 2 fois, comme vivant et comme mort, en ligotant son ombre par des rites appropriés. Ainsi, dans son Agamemnon, Eschyle fait-il de Clytemnestre, meurtrière de son mari, un être écartelé entre la joie de la vengeance et la terreur de savoir qu'à Mycène, les morts ne meurent jamais entièrement. Monde inquiétant. Puisque jamais il ne pourra épuiser la vie profonde de la mort, évincer les fantômes, supprimer le souverain pouvoir des ombres. Clytemnestre en saura quelque chose, elle dont l'ombre à son tour, une fois tuée par son fils Oreste, viendra hanter le matricide et déchaîner sur lui ces vampiresques sont les Érinies. On se sent là au cœur d'un monde où le pouvoir du sang et du néant est aussi présent et aussi agissant dans l'histoire que les guerres, les pillages, les intrigues et les lois dynastiques, aussi durables, aussi réelles que les rochers géants et les murailles cyclopéennes. Ici, ce n'est plus le poli, la patine des marbres, ce n'est plus le soyeux d'une matière domestiquée, mais le rocher brut, le grossier minéral entassé, amoncelé tel quel, comme si l'on avait simplement déplacé ici et là une colline. Ce n'est pas par insuffisance de moyens, par manque de technique, que les constructeurs de Mycène ont élu ces matériaux-là. On voit bien qu'ils savaient travailler le roc, tailler et mesurer la pierre, agencer des palais moins rudes et des salles moins grossières, comme celle du Mégaron, la salle principale du palais. Il y avait là, dans le choix de ces murailles protectrices, le goût de la matière brute, d'une massivité qui défie toutes les tentatives de siège ou de percée, et peut-être la nostalgie de l'antre paléolithique. Les légendes qui ont longtemps concerné ce palais et ce lieu ne sont-elles pas d'ailleurs à l'image de la rugosité, de la brutalité des pierres ? Ce qui rend aujourd'hui ces légendes évidentes à nos yeux, j'entends par là, dotées d'un sens déchiffrable, c'est qu'elles expriment un désir vierge et monstrueux, où rien ne semble s'interposer entre le cauchemar et son récit. De plus, elles nous furent transmises par le biais de poètes tragiques qui voulaient en montrer l'horreur et qui, de ce fait, n'ont rien fait pour l'édulcorer. Comme si ces drames mycéniens, ces banquets d'enfants dévorés, ces mutilations de cadavres, ces crimes en chaîne se perpétuant sur toute une lignée étaient les lignes de fracture de séisme latent qui n'ont cessé d'ébranler l'inconscient de la Grèce en même temps que l'écorce du sol. Ébranlement salutaire en un sens, puisqu'à force de réfléchir sur les crimes et le sang répandu des Atrides, les poètes tragiques ont affirmé, affiné leur besoin d'ordre et d'harmonie, conjuré les ancêtres vampires, dresser peu à peu les statues et les statues d'un ordre différent. À côté de moi, Spiros Yannaras, à moitié endormi, sursaute à quelques cris ou quelques éclats de rire, et son visage grimaçant de philosophe cynique s'éclaire d'un sourire édenté. Oui, c'est Diogène, non Socrate, qui somnole et qui boit ce soir avec moi. De l'autre côté, un dépêcheur d'éponge très vieux, avec un pullover en grosse laine blanche, damé par les planches du bateau, tanné par les embruns, qu'il ne quitte ni jour ni nuit, la tête coiffée d'un bonnet de cuir en forme de chapska, une barbe blanche et bouclée lui mangeant les joues. De ce masque, engendré par des amours levantines perpétrées sur les sables ou les hangars à barques, creusé, bosselé, taillé comme par un scalpel d'algues et d'acier, sort de temps à autre une voix caverneuse, issue d'une grotte marine, une voix de buccin enrhumé disant « Hoppa, hoppa » à chaque bond du danseur qui trébuche et tangue dans la pièce. Son nom résonne comme un grand coquillage marin. Andreas Boukoularias. Nom comme un bruit de vague dans les orbites creuses d'un cétacé fossile sur les galets éraflés d'une autre ère. Et le troisième pêcheur, plus jeune, visage acéré, mangé par une barbe couleur d'encre de Chine, yeux noirs étincelants, vrai visage byzantin dont les pupilles doivent traverser le temps. Déjà ivre, presque incapable d'articuler un mot, il me regarde fixement. Hébété, me voit-il. Toute la fatigue, toute l'errance d'une vie passée à dormir au hasard des plages et des cafés marque déjà ce visage encore adolescent. D'où viennent-ils, tous ces visages? Diogène, le buccin, Byzance. Quels gènes les ont façonnés, du Ponant au Levant de l'Égée, de Trébizonde à Chios, de Kavala à Antakya, pour en faire ces êtres bosselés, craquelés, ces masques lumineux et ravagés, où os et chair se combattent comme les frontières changeantes de la Grèce, où la mer et la terre se découpent en calanques de bouche, en promontoires de nez, en falaises de front, où les barbes bouclées sont bouquets d'algues incrustées dans la chair. Andreas ne sent pas l'homme. Il sent l'odeur d'un être entre deux mondes, cuir et laine rincé dans la saumure des siècles. C'est lui, le vieux de la mer, proté, l'insaisissable, tour à tour vague et dauphin et nautile, calmar, alcyon, écume, le vieux qui prend toutes les formes, toutes les senteurs, toutes les couleurs de l'océan. Il est venu ce soir dans ce café, au crépuscule, traînant son cuir usé sur le rivage comme un lamantin harassé. Il s'est hissé jusqu'à ce lieu de chaleur et de cri, et pour un temps, il est homme de terre, retrouvant là le parfum d'un ouzeau, le goût d'un vieux tabac extirpé d'une tabatière séculaire. Qui la lui a donnée? De quel port et de quelle rencontre vient-elle? Et de temps en temps, ses yeux verts, ses yeux glauques de vieux de la mer, me regardent. Il n'existe pas d'acte plus démesuré, plus scandaleux, plus dramatique que de tuer sa propre mère. Échille a parfaitement senti dans l'Orestie combien la portée de cet acte et du geste d'Oreste, même couvert par un ordre des dieux, était forte et chargée d'horreur. Mais il a aussi senti, et magnifiquement exprimé, la portée libératrice, illuminatrice de cet acte en raison de son horreur même. Tout comme Édipe incestueux, Oreste matricide voit s'ouvrir la lumière d'un nouveau monde où le crime par excellence se mue en exorcisme bienfaisant. Le sang maudit en signe d'une nouvelle alliance. Il fallait chez Oreste le long cheminement contre son propre sang, cette révolte extrême contre l'image et le corps de la mère pour qu'ils parviennent à provoquer cette collective mutation des consciences. On n'a pas fini de fléchir et de réfléchir. Et je prends consciemment ce mot en ses trois sens possibles, devant cet acte, qui demeure, avec le suicide, défi suprême, totale libération. Mais on devine aussi, à travers le trouble constant, le malaise de la conscience grecque à la seule idée de ce crime, combien il propose à la méditation un type de héros singulier, en marge des autres modèles héroïques. Car tuer sa propre mère semble un acte exemplaire sur le plan diachronique et signifiant du mythe. Quant à ses implications dans l'histoire, mais qui ne peut et ne saurait servir de modèle réel au comportement des humains. Il faut donc, pour en conserver la portée salvatrice, tout en la déchargeant de sa valeur d'exemple, isoler, je dirais même enquister, l'acte d'Oreste à l'intérieur d'une lignée, d'un récit, d'une époque bien délimitée. La légende le permettait qu'il imite l'histoire à la seule famille des Atrides. Mais, ainsi surgit des profondeurs du passé grec, porteur des gènes maudits des lignées mycéniennes, Oreste émerge par son acte à l'orée du monde athénien, comme si cet acte abolissait et l'histoire et le temps, comme s'il résumait, dans la durée d'une seule vie humaine, le long trajet de l'aventure civique de la Grèce. En transformant les Érinnies, ces vampiresses d'un autre temps, en Euménides, c'est-à-dire en déesses bienveillantes, en inversant, en somme, le signe marquant le sang, au sens mathématique du terme, Oreste abolit l'ancestrale suggestion du génos et du clan, et, ayant tué sa mère, n'a plus qu'à se trouver des frères. Frères qui ne seront plus de son sang, mais les nouveaux citoyens de l'ordre jaillissant, des frères par alliance, au sens civique et politique du terme. En cet horizon neuf que fait surgir Oreste, apparaît son nouvel habitant, cet autre dont l'existence, la présence, la conscience ne pouvaient surgir qu'en écartant, en supprimant tout ce qui jusqu'alors empêchait sa naissance. La mère était cette ombre opaque interposée entre l'homme et ses nouveaux frères. Je sais bien en écrivant cela que je néglige volontairement toute l'infrastructure historique, juridique, voire linguistique de l'Orestie. Mais je ne fais pas ici une étude sur Oreste. J'essaie de revivre son mythe, à travers les réflexions que m'inspirèrent Mycène et surtout l'Orestie, et les poèmes de Séphéris. Je m'en tiens donc à l'histoire même, comme si elle était vraie. De Digénis. La Crète moderne est un monde où le deuil est roi, où pendant des siècles la guerre, la guérilla, la vendetta n'ont cessé de régner. C'est pourquoi la première rencontre avec Knossos m'apparaît aujourd'hui si essentielle et si fragile. Elle fut la découverte d'un temps d'innocence et de joie avant ces longs siècles d'horreur et d'occupation étrangère. Le dernier rêve de bonheur qui prit corps sur le sol crétois. Car on sent bien ici, en ce monde de la Crète antique, qu'un bonheur a été trouvé, construit par des luttes constantes et conscientes contre les forces obscures que symbolisaient peut-être ces taureaux, ces serpents qu'on rencontre dans les sculptures, les fresques, les mythes et les rites. Forces que les Crétois, loin de les enliser, ont affronté dans la lumière du jour. Je pense, en écrivant cela, à ce terme si beau et si impressionnant dans sa traduction grecque par lequel les Crétois désignaient la grande déesse, Potnia Theron, la souveraine des fauves. On sent que ce bonheur, cette joie de vivre aussi manifeste sur les personnages des fresques, sont faits de maîtrise et de coexistence dominée entre le monde souterrain et celui du soleil. C'est en Crète que cohabitèrent les deux êtres les plus opposés par leurs symboles et leurs fonctions, le Minotaure et Icare, le monstre chtonien et l'homme ailé, le cauchemar de l'homme taureau et le rêve de l'homme oiseau. Et c'est en Crète également que se situe le plus énigmatique des mythes anciens, celui du labyrinthe. Dédale, ce génie inventif, fabricant d'automates, de statues animées, passait pour être l'architecte du labyrinthe, ce tracé méandrique qui, au contraire de la droite euclidienne, est le plus long chemin possible entre un point et un autre. Dédale, homme des spirales, des entrelacs, des volutes infinies, l'anti-Euclide. Et son fils Icare, le premier homme oiseau, prince des lignes droites et du plus court chemin entre terre et ciel. Bien sûr, rien de tout cela n'est directement sensible dans les ruines de Knossos. On n'y voit au premier abord qu'un ensemble de cours, de terrasses, de bâtiments à moitié reconstruits, étranges ruines à mi-chemin de la mémoire et de l'oubli, et un monde de fresques où s'exprime la joie des fêtes, l'ordonnance des rites, toutes les luxuriances réinventées de la nature. L'importance qui prennent les femmes, partout présentes, fait penser à cet autre monde de la douceur de vivre, cette autre civilisation engloutie, elle aussi, celle de l'amour courtois et des villes occitanes. Peut-être n'y a-t-il là que rencontre fortuite. Comme l'Occitane, la civilisation crétoise a disparu, anéantie par des désastres qui n'ont laissé d'elle que ses vestiges enchantés. Mais là, indiscutablement fut éprouvé, fut pratiqué un art de vivre qui laisse aux yeux et comme aux lèvres un goût de paradis perdu.
C'était l'été grec dans Un livre des voix, une émission de Pierre Cipriot, réalisée par Claude Roland Manuel, avec Jacques Lacarrière et des lectures de l'été grec par Michel Bouquet. Première diffusion sur France Culture le 13 avril 1976.